l'école d'Ivry.
Bonjour à tous, vous écoutez la Radio Libertaire 89.4, vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère-Marie Marchand, avec à la technique Flo Descailloux, que vous commencez à connaître et que vous connaissez très bien pour ses cocktails musicaux. Aujourd'hui, j'ai deux invités, nous allons parler de deux romans, donc un premier roman avec Catherine Boré, Un monde d'ego, qui vient de paraître aux éditions Il est midi, un premier roman fort réussi de Catherine Boré, Un monde d'ego, et Elisabeth Laureau-Dolle pour La Mijaurée d'Auguste C. Ça vient de paraître aux éditions Diabase, collection littérature. Elisabeth Laureau-Dolle était déjà venue à notre micro pour discuter avec nous. Alors, ça fait un grand plaisir de vous retrouver, Elisabeth, dans le studio de Bibliomanie. Et moi puis aussi. Vous, Catherine, je pense que c'est votre première radio.
Absolument.
Donc, avant que nous cheminions à vos côtés, alors j'ai trouvé, il n'y a apparemment pas de point commun entre vos deux romans. Si ce n'est, c'est un peu l'histoire de l'idéal, de l'utopie. Du monde, parce qu'Auguste Comte, c'est un peu le personnage central aussi de votre roman, Elisabeth Laureau-Dolle.
Oui, c'est l'ombre portée.
L'ombre portée, vous y connaissez en ombre portée, puisque la dernière fois, vous nous en aviez parlé longuement. Mais c'est vrai que, c'est la perspective, comment toutes les deux vous interrogez sur l'avant, l'après, l'idéal, c'est-à-dire les idéaux qu'on porte en soi, que l'humanité porte en soi, et puis la pratique. Alors pour vous, Elisabeth Laureau-Dolle, c'est sur la version d'un couple, d'un couple à trois, on pourrait dire, constitué par Auguste Comte, sa femme et son égérie, qui était Clotilde Devaux, je crois.
C'est ça.
Alors, je vais vous demander d'abord à l'une et l'autre de vous présenter. Elisabeth Laureau-Dolle, vous avez été enseignante.
Oui, j'ai enseigné et la philosophie et les lettres. Ensuite, j'ai fait un peu de journalisme, disons. Et j'ai écrit, comme vous le savez, un certain nombre d'ouvrages. Qui sont toujours des ouvrages de transmission jusqu'à maintenant.
Il faut dire que vous avez débuté au seuil jeunesse, entre autres. Et puis moi, je vous ai connu avec un livre qui est paru aux éditions du Sonneur, La Jument de Socrate. Et après, je pense que vous êtes venu ici pour un autre livre.
Je ne sais pas si j'étais venue pour Et l'ombre s'est épaissie.
C'est ça, voilà.
Voilà. La Jument de Socrate, je réhabilitais Xantippe, la femme de Socrate. Et l'ombre s'est épaissie, c'était quelque chose de tout à fait différent, puisqu'en fait, c'était une dette que je devais, en quelque sorte, à une amie qui était survivante de la Shoah. Donc, le thème était vraiment très différent.
Voilà. Alors, Catherine Boré, vous, c'est votre premier roman. Vous avez été...
Tout à fait.
Alors, présentez-vous. Alors, voilà.
Écoutez, moi je pense que je présente un cas rare d'écriture tardive. Bon, puisque c'est un premier roman, ça ne veut pas dire que je n'avais pas écrit auparavant. J'écrivais, comme on dit, un petit peu pour moi, de l'écriture de fiction, des nouvelles, des poèmes, un journal intime, et même roman pour la jeunesse. Mais j'avais publié quelques nouvelles dans des revues, mais là, vraiment, je me suis lancée dans un roman. Et puis autrement, pour ma vie antérieure, si l'on peut dire, oui, évidemment, professionnellement, j'étais amenée à écrire, puisque j'étais universitaire, enseignant-chercheur, comme on dit, professeur d'université, donc avec une partie d'enseignement et une partie de recherche, et donc la nécessité aussi de produire beaucoup, beaucoup d'articles et de livres.
Et voilà. Puis, vous avez publié dans des revues aussi,
oui,
beaucoup de
absolument.
Nouvelles.
Des nouvelles, voilà, des nouvelles. Absolument.
Et votre spécialité, c'était les sciences du langage, ce qui m'a intéressée dans votre roman, Catherine
oui.
Boré.
Oui.
Parce qu'il y a beaucoup de thèmes, hein. Il y a beaucoup de thèmes, c'est un roman foisonnant. Alors, je dirais que l'une et l'autre, vous ne boxez pas dans la même catégorie, on va dire.
Non.
Elisabeth Laurodol, vous, c'est un style court, j'allais dire presque théâtral. Parce qu'il y a unité de temps, unité, presque unité de temps, unité de lieu, unité d'action.
Absolument. Hein,
avec le chrono, enfin le chrono qui s'enclenche.
Tout à fait.
Et vous, Catherine Boré, c'est un style, comment dire, c'est un style terrien, c'est un style nourri. Très, c'est une écriture nourrissante et nourricière.
Ah oui, j'accepte tout à fait ça, oui. Incarné, on va dire.
Très incarné.
Voilà.
Dans un monde futur. Et alors, vous, Catherine Boré, c'est vrai qu'on a. On en parlera tout à l'heure, vous passerez tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est un univers romanesque. Il faut du temps pour rentrer dans votre livre, dans votre roman. Et vous, alors là, c'est l'inverse. On y rentre, alors là, immédiatement. Est-ce que vous, c'est. Une écriture incisive. Et j'ai retrouvé Elisabeth Laurodol, j'ai retrouvé un peu ce que j'avais trouvé dans la jument de Socrate, c'est-à-dire c'est la quête d'une femme, de plusieurs femmes.
Ah oui, tout à fait. C'est un roman féministe en quelque sorte. Bon, il est certain que c'est une fiction, le scénario est complètement fictif, puisque j'imagine une rencontre, d'abord une course dans Paris qui va faire, au terme de laquelle vont se rencontrer les deux femmes de comte. J'en parle, je développe ou pas? Donc, Caroline Massin, qui était la femme de comte qu'il avait répudiée, et Clotilde de Vaux, qu'il va aimer durant une année, l'année sans pareil d'ailleurs, dont il va tomber éperdument amoureux, et qui va se refuser à lui. Et donc, disons, le pitch, si on peut dire, c'est que Caroline Massin, qui a peur qu'Auguste Comte, qui, dans le passé, a fait des crises de démence, ne retombe fou, décide d'aller convaincre Clotilde de lui céder. Donc, évidemment, c'est un scénario un petit peu particulier, en tout cas, voilà.
Alors, on peut dire aussi, Elisabeth Laurodol, que c'est un roman féministe, on en a
oui.
parlé. C'est
oui.
la solitude de deux femmes, en fait. Il y a la femme idéalisée. Moi, ce qui. Pareil, c'est. Auguste Comte, il tiraillait entre rêve et réalité, utopie et réalité, tout ce qu'on voudra, et puis entre la femme idéale et la femme réelle. La femme réelle, c'est quand même celle avec qui. Il a vécu.
Pendant 17 ans,
voilà.
oui.
Et la femme idéale. C'est oui. Clotilde de Vaux qui écrit aussi.
Oui, alors il n'a pas été tiraillé très très longtemps, à vrai dire.
Oui.
Parce que
oui.
Auguste Comte n'était pas un féministe. Il disait des choses des femmes qui n'étaient pas très 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 marrantes. Bon, par exemple,
je peux vous citer, oui, il n'est pas du tout féministe
ouais.
du tout. Bah, faut voir la pauvre Caroline, elle en prend. Je veux dire, vraiment, il est pas très aimable avec elle, c'est le moins qu'on puisse
Alors,
dire.
Justement, est-ce que je peux dire quelque chose à ce sujet?
Oui.
Parce que finalement, ça explique pourquoi j'ai écrit ce roman.
Oui.
Je suis allée, je me souviens, être allée à la maison d'Auguste Comte, alors il y a peut-être des décennies maintenant, lire la correspondance entre Caroline et Auguste Comte, c'est-à-dire Auguste Comte et sa femme légitime, Caroline Massin, qui n'était pas encore publiée. Et donc, je suis tombée devant la conservatrice à l'époque à qui j'ai dit, mais j'ai lu que dans son testament, Auguste Comte a dit pique-pendre de sa femme, et notamment que c'était une prostituée, que c'était une femme publique, etc. Bon, moi j'ai jamais lu nulle part, mais enfin c'est un petit peu l'histoire de l'homme qui a vu l'ours, et donc c'est celui qui a lu, etc. Et la conservatrice s'est mise en colère. En me disant, je ne supporte pas qu'on dise de Caroline Massin que c'est une femme publique, c'était une femme intelligente, elle a suivi la pensée de son mari, elle l'a soignée quand il était fou, etc. Et j'ai lu effectivement la correspondance, et les lettres de Caroline étaient tout à fait extraordinaires. Et je suis sortie de là, donc vous voyez, ça fait quand même peut-être 30 ou 40 ans, peut-être, je ne sais pas, parce que mon histoire avec Comte dure depuis mes 20 ans.
C'est une longue histoire.
Tout à fait. C'est
une longue histoire.
Un petit livre qui a été en gestation pendant des décennies. Et je suis sortie de là en me disant, un jour, je réhabiliterai Caroline Massat. Et en fait, c'est ce que je fais au travers de ce livre. Ah, évidemment, c'est la fiction dans l'histoire. Et ce sont les deux femmes d'Auguste Comte. Alors, Auguste Comte n'en pensait vraiment beaucoup de mal des femmes, d'une certaine façon. En tout cas, il les voyait comme quelqu'un d'inférieur. Et quand il est arrivé à dire qu'elles sont supérieures...
Attendez, ben, je vais vous citer. Quant aux gracieusetés dont il l'a gratifiée, ça c'est Caroline.
Ouais.
Alors, bubon domestique, cancrelat de basse cuisine, universelle vermine. Ah, merci Auguste Comte. Là,
ouais,
ouais. Cette pauvre Caroline Massin... Enfin, elle s'acharne, hein. C'est une femme entêtée, obstinée.
Oui, mais d'abord, elle aime la philosophie de son mari, et ça, moi, je peux le comprendre parce que je l'ai aimée dès mes 20 ans, si je peux dire. Mais c'était pas une sainte, Caroline Massin. C'était peut-être pas une femme publique, mais enfin, quand ça allait mal avec son mari, elle allait se balader ailleurs. Bon, donc ça, c'était clair. Et donc, l'une des crises, la plus grande crise de folie d'Auguste Comte, a eu sans doute à l'origine l'une des fugues de sa femme. Bon, mais c'est tout, c'était une femme indépendante, c'était une femme intelligente, c'est une femme à qui la vie n'avait pas fait de cadeau. Et donc, qui gérait sa vie d'une certaine façon.
Elle l'a gérée, elle veut comprendre. Hein. C'est une femme qui veut comprendre l'homme avec qui elle a vécu et avec qui elle ne vit plus, ou très peu.
Non.
Et qu'il y a une sorte de... Oui, il y a une sorte de quête d'interrogation presque théâtrale.
Oui.
Et c'est vrai que vous, Catherine Boré... Autre point commun entre vos deux livres si différents et peut-être un peu peut-être complémentaires, c'est que vous, c'est aussi une quête pour sauver quelqu'un d'une mort annoncée en quelque sorte. Dès le départ, il y a quand même une mort annoncée. Et vous, c'est la mort d'un couple.
Oui. Mais il l'avait répudié. Mais il ne pouvait pas divorcer parce que le divorce qui avait été institué après la Révolution. Avait été supprimé. Donc, il avait été entériné par le code civil à l'époque napoléonienne, mais à partir de Louis XVIII, il avait été réinstauré. Et on aura le droit en France de divorcer qu'après 1870. Mmh. Enfin.
Et vous, Catherine Boré, donc c'est vrai c'est important pour vous de bien situer dès le départ aussi ce sort de compte à rebours.
Tout à fait. Dès que j'ai commencé à concevoir ce travail, il y avait cette dualité, cette complémentarité entre la mère et le fils, hein, puisque le couple en question, c'est un couple mère-fils. Et il y avait cette destination, cette destinée qui serait une destinée malheureuse. Enfin, c'était déjà comme la tragédie, en quelque sorte. Donc, il y a certainement une composition tragique dans ce travail qui par ailleurs est un travail aussi spéculatif avec mes faibles moyens, mais en tout cas pour moi c'était aussi une occasion de réflexion sur beaucoup d'éléments sur lesquels je reviendrai tout à l'heure avec vous.
D'accord. Alors Elisabeth Laurent-Daule, je vous dis une dimension théâtrale, beaucoup de dialogues dans votre roman qui est assez court. C'est un style vif, rapide. Vous m'avez dit hors antenne que vous étiez habitué
à raturer.
Vous êtes une habituée de la rature.
Je suis une habituée de la rature. Et puis, j'ai lu quelque chose qui m'a confortée aussi là-dessus. Dans son journal, Jules Renard disait qu'en littérature, tout est toujours trop long.
Mmh.
Et ayant moi-même travaillé sur quantité de livres et quantité d'œuvres des autres... Ça me paraissait évident. Donc, j'ai tendance, quand je lis des livres, et même d'excellents livres connus par la critique, etc., moi, je raturerais des tas de choses.
Mmh. Donc, il y a deux, dans les deux femmes d'Auguste Comte, il y a Caroline Massin, qui on a présenté, et Clotilde Vaux à l'écrit. Mais moi, c'est vrai que je la connaissais de nom, mais je l'ai redécouvert un peu, j'ai redécouverte grâce à vous.
Ah oui. Alors, Clotilde Vaux, donc, C'est une fille d'une femme aristocrate et d'un soldat, si on peut dire, de Napoléon. Elle a eu une drôle de vie. Parce que son père, donc son père militaire à la retraite a hérité d'une perception, si on peut dire, il a géré une perception. Et quand elle a épousé Amédée Devaux, d'où son oncle Clotilde Devaux, Amédée Devaux a repris la perception du père de Clotilde. Seulement Amédée Devaux, il est parti avec la caisse, il a acheté tout ce qu'il pouvait dans les cabinets, et donc la pauvre, il est allé en Belgique, et la pauvre Clotilde s'est retrouvée donc veuve d'un mari qui n'était pas mort. Voilà.
Ouais.
Et elle raconte ça, elle a raconté ça, et donc elle avait envie d'écrire. Dans, elle a écrit deux ou trois petites nouvelles, dont une qui s'intitule Lucie, qui est parue à l'époque comme tout ce qui paraissait, c'était dans les feuilletons, les journaux, etc. Et à l'époque, c'était dans le National d'Armand Marat. Et donc, bon, ben voilà, elle pensait que qu'elle était une écrivaine, c'était gentillet, quoi. Bon, mais cette en fait, cette Lucie, je l'ai lue dans le livre de Charles de Rouvres, qui était le petit-neveu ou l'arrière-petit-neveu de Clotilde Devaux. Et donc, il cite beaucoup de grands passages de Lucie. Donc, elle raconte sa vie.
Voilà. Et sa rencontre avec Auguste Comte, ça s'est passé comment?
Alors, sa rencontre avec Auguste Comte. Auguste Comte, en 1846, oui, c'est peut-être à peu près ça. Bon, il était examinateur à l'école polytechnique, c'est-à-dire qu'il y avait des entretiens pour faire entrer donc des jeunes à l'école polytechnique. Et le frère de Clotilde Devaux, qui s'appelait Maximilien, avait été donc été passé en entretien devant Auguste Comte, qui l'avait d'ailleurs recalé. Mais pour Maximilien, c'était vraiment. Il était le plus grand philosophe vivant, mais pas seulement pour Maximilien. Il faut savoir qu'Auguste Comte, au XIXe siècle, était considéré comme l'un des plus grands. On l'a comparé à Descartes. Le philosophe Stuart Mill disait que vraiment, c'était le grand des grands à cette époque-là. Donc, on n'imagine pas. Et vous avez raison quand vous avez dit que ben, Auguste Comte, ça ne vous disait pas grand-chose, mais ça ne dit à personne aujourd'hui.
Non.
Il est tombé dans les...
Le positivisme, voilà.
C'est ça,
voilà.
On retient le positivisme.
Catherine Boré,
voilà. Et puis, effectivement, peut-être cet idéal, en effet, dont vous parliez au début et qui fait le point commun peut-être entre nos,
oui.
entre nos deux ouvrages. Mais oui, c'est ça.
Oui.
C'est peut-être la seule chose qu'on retienne. Et en effet, on ne l'enseigne plus ou pas.
Ah non, c'est tombé. Vraiment. C'est complètement, c'est quelque voilà. chose qui a été, qui a eu encore une influence sur la société française, peut-être jusqu'à la moitié du XXe siècle. Tout à fait fini.
C'est ça.
À tel point qu'on a voulu déboulonner, enfin, à l'époque de Claude Allègre, je crois, la statue d'Auguste Comte qui se trouvait place de la Sorbonne. On l'a pas déboulonnée, mais on l'a déplacée.
Voilà.
Et alors, donc, il a rencontré Clotilde Devaux parce qu'il était invité par son frère chez ses parents. Et là, il est tombé devant une jeune femme qui avait presque 20 ans, en fait, qui avait 17 ans de moins que lui. Et une jeune femme superbe, très, très belle, charmante, un petit peu alanguie. Mais enfin,
très bon. Alanguie, hein, elle est malade. Elle est malade.
Eh ben oui.
Elle est malade.
Bah, bien sûr.
Et alors, je pense que c'est certains lui prétendent qu'elle a celui de la plume et des mots. Ce talent-là lui semble mineur et dérisoire. Est-il seulement nécessaire? Écrire n'est pas vivre. C'est un succès d'année. Un jour viendra où elle n'éclaira plus, mais vivra vraiment si elle ne sera pas malade indéfiniment. C'est, en plus, il y a plusieurs comptes à rebours dans votre livre. Il y a le compte à rebours de deux histoires d'amour, si on peut dire, même trois histoires d'amour. Et puis, il y a le compte à rebours de la vie d'Auguste Comte et de la vie de cette jeune femme qui est condamnée.
Bah,
qui,
ouais.
qui est condamnée. Donc, et on sent le souffle, un travail
sur... Elle est phtisique, elle a la tuberculose.
Maladie du siècle.
Ouais, donc on sent que vous jouez. Enfin, c'est assez bien. Ça pourrait être une pièce de théâtre. Hein, ça pourrait être mise en scène.
Hein. Eh bien, avis au metteur en scène.
Non, mais ça pourrait.
Oui, absolument. Absolument.
Ça pourrait, puisqu'il y a.
On m'a dit qu'il y avait quelque chose de cinématographique dans le déroulement.
Moi, je verrais plutôt ça au théâtre.
Oui, mais.
Parce que c'est vraiment très. voilà, il y a une action, il y a la recherche de cette femme. Alors, cette femme, Caroline, à quoi penses-tu ? Son invariable question lui vaut une invariable réponse développée dans un soupir. Faut-il absolument penser pour exister ? Et finalement, cette Caroline, elle incarne...
Caroline. C'est Clotilde qui dit ça.
Oui, mais je parle de Caroline quand même.
Oui, d'accord.
Elle incarne la question qui revient sans arrêt. La question lancinante auquel Auguste Comte ne veut pas répondre. Il est comme beaucoup d'hommes, il ne veut pas choisir. C'est ça qui vous a... Quel était le mobile un peu de ce livre, de ce roman,
Alors, comme je vous l'ai dit, c'était la réhabilitation de Caroline Massin. Et comme toujours, mais enfin, quand on commence à écrire un livre, on a une idée de ces personnages et on imagine que bon, ils vont partir de là, ils vont arriver là. Et l'écriture a ça d'intéressant, c'est que finalement, les personnages dévient complètement. Je pense que je vous avais dit la même chose quand à propos de la jument de Socrate.
Oui.
J'avais commencé la jument de Socrate en voulant réhabiliter Xanthippe, dont on disait que c'était une femme de mauvais caractère, qu'elle versait l'eau sur la tête de Socrate, etc. Et je trouvais que Socrate, il bénéficiera. Donc il y a une espèce d'éternité dans la réputation de Socrate, qui n'a jamais rien écrit, mais qui en fait tout dire, et du meilleur. Et quand j'avais commencé ce livre, en tout cas, je me disais, il va en prendre pour son grade. Quand j'ai commencé La Mijaurée, j'avais déjà le titre en tête, donc La Mijaurée, c'est Clotilde, etc. Et je me suis dit, elle va en prendre pour son grade, parce que je voyais une espèce de femme un peu évanescente, se faisant plaindre, etc. Enfin bon, et se plaignant dans ses écrits.
C'est vrai que le titre est un peu surprenant. Moi, il m'a un peu surprise.
Et dans quel sens ?
Ben, mais après, j'ai compris.
Ouais.
Vous avez utilisé un terme un peu suranné, un peu désu... Enfin, qu'on n'emploie plus maintenant.
Moi, on est quand même en 1846.
Oui.
Mais vous avez tout à fait raison. Non, mais ça m'intéresse de savoir, parce que, bon, La Mijaurée, j'aimais beaucoup ce mot. Et mon éditeur, donc, s'il écoute, et il écoutera en podcast, bien sûr, il est très intéressé par tout ce que vous allez dire. Au début, il m'a dit mais j'aurais le titre, ça va pas, etc. Bon, moi je suis pas spécialement d'accord, un titre ne convient pas, est-ce que vous en avez un autre? J'ai dit ok, d'accord, proposez-moi autre chose. Voilà. Donc mon éditeur c'est Yves Bescon avec sa femme Cyprice Kofidès. Bon, je suppose qu'ils ont fait du brainstorming ensemble, puis finalement au bout du compte, il dit non, on n'a pas trouvé, et on a laissé La Mijaurée d'Auguste C. Et j'étais très contente, mais moi, je trouve que c'est un beau titre, quand même. Non, vous ne trouvez pas ?
Il est un peu surprenant. Il est un peu surprenant.
Ouais.
Et il peut. Il est un peu surprenant.
Ouais.
Et voilà.
Ouais,
ce n'est qu'un titre. Hein.
Ouais.
Il est un peu. Après, on le comprend mieux quand on vous lit, quand on lit l'histoire.
Ouais.
Et on en plus dans le 19e siècle. Donc, effectivement.
Puis c'est le mot qu'emploie Caroline en disant au tout début.
Ouais.
Elle quitte Auguste Comte après avoir appris un certain nombre de choses qu'elle n'avait pas appris. C'est de la fiction, ça. Et elle lui dit « Tu l'auras ta Mijaurée
». C'est ça.
Donc, le mot « Mijaurée » est dit par Caroline. Et puis, je sais pas, moi, c'est un terme que j'ai bien entendu.
Bah, écoutez,
évidemment, je suis d'une autre époque. Entendu dans mon enfance.
Oui, moi aussi.
Pain beige, Mijaurée, voilà.
Oui, bon. Alors, c'est vrai qu'Auguste Comte, alors en plus, alors, je crois qu'il y a une phrase de lui qui est mise en exergue. Supérieur par l'amour, mieux disposé à toujours subordonner aux sentiments, l'intelligence et l'activité, les femmes constituent spontanément des êtres intermédiaires entre l'humanité et les hommes. C'est charmant. Et puis alors, on découvre... Alors, il y a beaucoup d'humour aussi de la part de Caroline. Je trouve que c'est un vrai personnage, Caroline Massin.
Ah ouais, c'est une femme forte.
Ouais.
Intelligente.
Et puis alors, elle agit à rebrousse-poil. Alors j'imagine, voilà ce qu'elle dit à Auguste Comte, je suppose. Hein. J'imagine que tu pèses toujours ton manger. Elle imaginait aussi qu'il devait mesurer le temps de ses journées. Le temps pour réfléchir, le temps pour marcher, pour dormir. Le temps pour lui, le temps pour autrui. C'est tout ce qu'il avait trouvé pour tenir à l'écart sa folie, s'en fabriquer une autre en ritualisant chaque démarche de sa vie.
Mais c'est ce qui s'est passé, parce que quand Auguste Comte, donc après sa crise de folie, il a quand même été, à l'âge de 28 ans, enfermé près d'une année chez Dr Esquirol, à la suite de crises de démence quand même très violentes, il en est sorti non guéri, mais est-ce qu'on sort des asiles guéris, ça reste à prouver. Et donc, moi, j'aimais beaucoup ce côté un petit peu faible et à la fois fort chez Auguste Comte. C'est pour ça que j'ai aimé à la fois le philosophe et l'homme, mais là je parle de ma propre réalité.
Oui.
C'est qu'il s'agissait d'un homme qui s'est dit et d'abord il s'est jeté dans la Seine en se disant je ne retrouverai plus mes capacités mentales. Bon, il y a un garde royal qui l'a repêché, on l'a ramené à sa femme, etc. Tout ça est réel. Et il a effectivement, il s'est dit bon, je vais m'arranger pour ne plus redevenir fou. Et donc, tous ces rites de vie, il s'était prescrit une hygiène de vie, quelque chose de très particulier. Je mange ça, un jour je travaille, un jour je travaille pas. Il marchait beaucoup.
Ouais.
Il déambulait beaucoup dans Paris.
Et aussi, mais on voit Paris, c'est marrant, parce qu'on voit la marche à pied dans Paris, quand on vous lit. C'est à l'époque.
Ils partent de la maison d'Auguste Comte, qui est donc rive gauche, rue Monsieur le Prince, et du côté de l'Odéon, et vont rue Payenne dans le Marais. Donc il y a toute cette course à travers Paris, bien entendu.
Voilà, et c'est vrai que c'est un être complexe, Auguste Comte. Voilà ce que vous écrivez, Elisabeth Laureau-Dolle.
Mais Auguste, je l'aime bien.
Ben, vous aimez bien tous vos personnages, j'ai l'impression. Auguste Comte sort de son
même
cabinet.
Mais oui, surtout la Mijaurée.
Surtout la Mijaurée.
Auguste Comte sort de son cabinet et s'approche de la psyché pour s'y détailler. Est-il vraiment tel qu'il s'y voit? Son miroir ne le déforme-t-il pas? Ne lui renvoie-t-il pas comme le croyaient les anciens quand ils scrutaient dans le miroir métal poli leur reflet? Sa face nuit? Que sa face nuit, donc sa face nocturne, j'explique aux auditeurs, que personne ne connaît. Et c'est cette double face, c'est cette traversée du miroir que nous raconte votre livre, Elisabeth Laureau-Dolle.
Oui, mais c'est vrai qu'il n'était pas beau au miroir, mais quand on regarde les portraits d'Auguste Comte, il n'est pas marrant, il ne sourit jamais, il n'y a pas beaucoup de cheveux, on a vraiment l'impression que la misère du monde lui est tombée sur la tête. Et oui, et cette misère, en fait, il n'a qu'une envie. Mais bon, là, vous allez me poser des questions sûrement là-dessus. Il a envie de concourir au bonheur de l'humanité. En fait, c'est la religion qu'il va faire, c'est pour ça, quoi. Donc, oui, j'ai peut-être un peu forcé le trait. En plus, quand on me dit, mais qu'est-ce que c'est que ce vieux? Bah, il n'était pas si vieux que ça. On est en 1846. Bon, je sais qu'il faut se reporter presque deux siècles en arrière. Mais il est né en 1798, donc il avait 48 ans. C'est pas jeune à l'époque.
Il n'est pas jeune, mais il a un coup de jeune avec cet amour pour sa Mijaurée.
Il découvre l'amour, c'est-à-dire pas simplement, bien sûr, il veut la posséder physiquement, ça c'est clair, il lui écrit. Mais il découvre vraiment la vertu d'amour. Et il va faire de l'amour le principe de sa philosophie et de sa religion. Donc sans la rencontre de Clotilde, tout ça n'existerait pas. Enfin, la religion d'Auguste Comte n'existerait pas.
Alors, on va faire, vous savez, qu'une émission sans musique.
Ouais.
On m'en fait souvent le reproche, parce que je parle pas mal. On va faire une pause musicale et nous reprenons notre chemin aux côtés d'Auguste Comte et de sa Mijaurée.
Très bien.
Alors, nous allons commencer par un titre un peu rock. C'est pas du 19e siècle, je m'en suis tenue au 20e siècle. C'est un groupe actuel qui s'appelle Igor and the Hippieland, et c'est Running Away. Et oui, il chante en anglais. Non, c'est pas celui-là, pardon.
You tell me things that I don't. You're clear.
Bien sur Radio Libertaire 89.4, vous écoutez l'émission Bibliomanie. Aujourd'hui en présence de deux écrivains, deux femmes, Elisabeth Laurodol pour La Mijaurée d'Auguste C qui vient de paraître aux éditions Diabase, et Catherine Boré qui vient de nous parler de son, premier roman, Un monde d'ego, qui est paru aux éditions Il est midi. Alors, Elisabeth Laurodol, c'est vrai que cet Auguste Comte, voilà ce que vous écrivez d'ailleurs à son sujet, il remplace donc Dieu par l'espèce humaine en son entier. Ce n'est pourtant pas compliqué, le monde futur rendra un culte à celui qui l'a précédé pour ce qu'il a accompli, et à son tour il œuvrera pour le progrès. Ainsi devenu pour l'homme l'unique providence, l'humanité verra, génération après génération, son animalité se muer en divinité. Donc c'est l'humain, c'est la croyance au progrès. Et lui est-il si humain que ça, finalement, Auguste Comte ? Parce qu'il en sort quand même, dans sa vie privée. Voilà ce qu'il dit à Caroline, je pense. Vous extravaguez, il ne s'agit pas de passion. Ah non, ça c'est autre chose. C'est il lui dit, n'oubliez pas, Caroline Massin, que vous me devez une infinie reconnaissance. Ne vous ai-je pas sauvé de la déchéance ? Et c'est elle qui le sauve quelque part, en plus.
Oui, mais
de la solitude, de la folie peut-être aussi. Elle le recentre.
Oui, mais comme je vous ai dit, c'était quand même une sainte, et donc
non, mais non plus, mais personne, voilà. Ils sont tous à égalité là, enfin personne. Ouais.
Non, mais je pense qu'Auguste Comte, là encore, c'est j'ai l'impression d'avoir forcé le trait, et donc s'il existe quelque part dans un monde d'esprit où je ne sais pas si on peut y croire, franchement, je lui demande pardon parce que. Il n'était pas si mauvais que ça. Bon, et alors sa philosophie, si vous voulez, bon, vous en avez vaguement parlé, mais c'est vrai que pour lui, c'était tout à fait évident qu'il fallait s'attacher à la terre, qu'il fallait renoncer à connaître l'inconnaissable, et donc il fallait apprendre, savoir, bien sûr, mais la science était inutile si elle ne concourait pas au bonheur de l'humanité. On doit quand même à Auguste Comte le terme d'altruisme, c'est-à-dire le fait de vivre pour autrui. Il dit à certains moments, de façon très précise, enfin bon, c'était un anti-individualiste, et là-dessus je le suis complètement, on n'a pas de droits, on a des devoirs. Et des devoirs envers tous. Et quand il parle de l'humanité comme étant le grand être, c'est parce que lui-même s'inscrit dans une grande chaîne de pensée. Il est reconnaissant. Sa religion, c'est la religion vraiment de l'humanité entière, c'est-à-dire les êtres passés, présents et futurs, pour ce que les uns ont accompli, et donc le relais qui se passe d'une génération à une autre. Et même si tout ceci n'est pas tellement nouveau, bien entendu. Mais à l'époque, il faut savoir aussi qu'Auguste Comte, il est venu après la Révolution. La Révolution, ça avait été une sorte d'apocalypse qui a mis combien la France a mis des décennies à se remettre. C'était le brigandage généralisé, il n'y avait pas de rente, il n'y avait plus d'instruction, il n'y avait plus rien. Donc, toutes les utopies du 19e siècle, du début du 19e siècle, étaient là pour essayer de refaire une société. Donc là, c'est peut-être le point commun avec le livre de...
Oui, voilà, le point avec
de notre ami.
Oui, oui, puisque à l'origine, dans le roman, c'est l'idée, on tend vers une idée d'harmonie. Hein, c'est le principe que défend Artemisia, donc le personnage qui va apparaître comme...
De votre livre, Catherine
Oui, le personnage principal qui régit cette société de la juste régulation, dont on va parler tout à l'heure. Et en effet, l'idée d'égalité, qui est une idée qui est chez nous très banale pour nos sociétés démocratiques, elle est repensée à nouveau frais par cette Artemisia et dans la société des égaux qu'elle veut propulser.
Voilà. Alors c'est vrai, voilà, vous avez des passerelles. Et pour venir à vous, Elisabeth Lorodol, en fait, c'est aussi le roman du paradis. Enfin, d'abord, il y a deux idées qui me viennent à l'esprit en vous écoutant. D'abord, cette idée de chaîne, de transmission. J'ai l'impression que vos trois personnages n'arrêtent pas de créer une chaîne,
oui,
conflictuelle, interrogative, passionnée. C'est-à-dire, Caroline va rechercher, donc va frapper à la porte de la pseudo-maîtresse de son mari, qui n'est pas vraiment sa maîtresse.
Elle n'a jamais été sa maîtresse.
Mais ben, l'égérie de son mari. Et en frappant à sa porte, elle découvre une autre femme.
Oui.
Elle découvre une autre réalité. Oui. Et de même, la muse découvre donc la. Enfin, tout le monde se découvre finalement dans une chaîne, une sorte de cercle de remise en question perpétuelle.
Oui, et vous l'avez vaguement évoqué tout à l'heure, c'est vrai, avec le fait que les femmes s'en sortent très bien dans cette histoire.
Oui, oui, oui.
Elles sont, pour moi, elles s'en sortent là où elles s'en sortent le mieux, c'est qu'elles ont réalisé qu'elles avaient un grand homme qui avait évidemment ses petitesses, ses petits côtés, peut-être pire, mais que cet homme, il voulait véritablement régénérer, il voulait travailler pour l'humanité. Et ce sont des femmes à la fois intelligentes et qui ont du cœur, et elles sont conscientes qu'il y travaille très bien et qu'il faut le soutenir et que ne serait-ce que pour ça, que sa valeur est là. Donc, il y a deux femmes qui sont conscientes de la grande valeur d'Auguste Comte.
D'une création, d'une pensée philosophique qui
oui.
est là.
Alors, création, c'est vrai que plus j'y réfléchis, plus je me dis finalement qu'est-ce qui est neuf chez Auguste Comte ? Pas tant que ça, peut-être la classification des sens, des sciences, peut-être la loi des trois états, donc imagine que l'humanité passe par trois états, etc. Bon, on développera si vous voulez, mais enfin, je suis pas là pour un cours de philo. Mais donc, mais quand je réfléchis, parce que ça fait quand même plus de 50 ans que je réfléchis sur Auguste Comte, je me dis, non, il n'y a pas de nouveauté vraiment, mais il s'inscrit, il le dit lui-même. Rien de neuf, c'est-à-dire il y a quelque chose qui s'ajoute, qui s'ajoute, qui s'ajoute, et donc il ajoute un peu de pensée à la pensée des autres, en laissant la possibilité aux autres, bien sûr, de développer cette pensée.
Et puis j'ai aussi l'impression que votre roman est le roman du paradoxe, puisque, par exemple, alors je reprends la phrase que j'ai ébauchée tout à l'heure, vous extravaguez, il ne s'agit pas de passion mais de possession, et cette femme vous possède, c'est parce que vous ne la possédez pas. Mmh. On ne sait pas qui nous possède qui possède quoi, on ne sait pas qui l'on est, ce que l'on cherche, ce que l'on sait. Ça aussi.
Absolument. Ça, je fais dire ça à Émile Littré, qui a été le grand ami d'Auguste Comte.
Alors, oui, alors Émile Littré, moi, c'est une découverte aussi dans votre roman. J'ai beaucoup aimé, je dirais presque, l'évocation du personnage d'Émile Littré.
Il m'a beaucoup servi.
Ouais.
Il était l'ami d'Auguste Comte, il l'a suivi, bon, il était médecin à l'origine, c'est le Littré, évidemment, du dictionnaire, vous connaissez ça par cœur, et il a suivi Auguste Comte jusqu'à un moment... au moment où Auguste Comte est passé de la philosophie à la religion. Et à ce moment-là, il dit, bon, ça y est, il devient fou, etc. Et donc, à ce moment-là, il a complètement lâché. Et Émile Littré a été, alors, du vivant des personnages, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je sais, pour avoir lu la biographie d'Émile Littré, en tout cas, sur Auguste Comte, qu'il a défendu Caroline Massin. Alors que, par exemple...
Oui, il la défend. Ouais.
Il la défend, tout à fait. Et donc, il nie qu'elle ait été la femme publique dont, que certains ont dit. Ce qui est répété dans les autres biographies. Par exemple, si on lit le livre d'Henri Gouillet, il dit comme si c'était quelque chose qu'il avait vraiment vu, appris, etc. Bon. Tandis que non, pour Émile Littré, Caroline Massin est une femme intelligente, et donc je l'ai fait échanger. Bon, il me fallait un personnage, finalement, qui se trouvait...
Un autre personnage masculin.
Absolument. Mmh. Qui se trouvait ne pas être le double d'Auguste, mais aider quand même à comprendre et à faire parler Caroline Massin ce qu'Auguste Comte ne se souciait pas de faire.
Ah bah non,
parce que leur vie domestique était épouvantable.
Ouais, il veut la bâillonner. Alors ouais. Voilà, ça, vous avez l'art du portrait, fait comme ceci, fait comme ça. Tout le monde se mêlait de sa vie décidément et chacun avait son idée sur la façon dont elle devait la mener. Il n'y avait qu'elle à ne savoir comment vivre pour bien vivre. Elle était née indécise et il était trop tard pour changer. Un autre paragraphe, il aurait fallu, elle le comprend bien, qu'elle ne soit pas Caroline Massin, une rebelle qui, dès le ventre de sa mère, arracha la vie de haute lutte et que personne n'a jamais pu dompter. Quand elle parlait, elle le contredisait. Quand il commandait, elle désobéissait. Et quand il ne voulait plus d'elle, ni elle de lui, elle disparaissait. Pour échapper à leur guerre, pour éviter le pis, elle a encore dans l'oreille sa menace d'impuissant quand elle revenait, une fois encore... Et je ne te reprendrai pas. Et cette phrase-là, je pense que beaucoup de femmes du 19e l'ont dû l'entendre, et même du 20e, bien évidemment.
Voilà. Exactement. Exactement, je veux dire, c'est un couple finalement qui, dans leur façon conflictuelle de vivre leur couple, est relativement moderne. Enfin, je veux dire, bon, on a l'impression que ça se reproduit très souvent. Quand on entend parler des féminicides aujourd'hui, on peut imaginer des violences. Parce qu'à un certain moment, je lui fais dire qu'elle s'en va, parce qu'il lui fait peur, carrément. Mmh. Il arrive à un tel état d'énervement, de folie presque. Elle se dit, tout peut arriver.
Et puis, alors, c'est vrai que c'est un roman très contemporain, hein, sur la condition de la femme, comment une femme fait pour... ou sauver son couple, ou se sortir d'un couple problématique, ou de reprendre sa liberté. Enfin, c'est vraiment une interrogation, hein, comment non pas vivre ensemble, mais vivre avec quelqu'un.
Tout à fait. Oui, absolument. À la fois vivre avec quelqu'un, mais au départ, elle pensait que... Je pense qu'elle a beaucoup rêvé aussi, d'une certaine façon. Bon, c'était quand même inespéré pour elle que devenir la femme d'une sorte de professeur d'université, de philosophe connu, reconnu, puisque au moment évidemment de ses leçons de philosophie positive, il y avait tous les grands philosophes, les grands penseurs qui venaient l'écouter quand même. Donc, elle s'est imaginée peut-être quelque chose. Elle s'est mise elle-même sur un petit nuage, d'où il a fait descendre très vite.
Voilà, l'union d'un philosophe et d'une lingère est contre nature, prononça-t-il, plus sentencieux que juge au prétoire, comme celle de la carpe et du lapin. Aussi ai-je décidé d'y mettre fin, Madame Massin. Et puis, il y a aussi des phrases pour donner à nos auditeurs l'envie de vous lire et de découvrir votre livre.
Oui, s'il vous plaît.
Par exemple, mais je pense que je donne quand même envie de lire. Par exemple, peut-on vraiment aimer cet homme qui marche si gravement et qui ne rit jamais ? Voilà, le portrait de l'homme est dans une phrase très concise, un peu comme une sorte de... d'ombre en contre-jour, justement, ce que vous aimez...
D'ombre portée.
Hein. Oui. On va faire une pause musicale et nous reprenons notre conversation.
Alors maintenant, Fred Frith, Eye to Hear Ensemble. C'est assez récent, ça date du 21e siècle. Thank you.
sur Radio Libertaire 89.4. Vous écoutez l'émission Bibliomanie. Aujourd'hui, en présence d'Elisabeth Leroux-Dole pour La Mijaurée d'Auguste C. C'est un roman qui vient de paraître aux éditions Diabase. Et avec Catherine Boré pour Un monde d'ego qui vient de paraître aux éditions Il est midi. Catherine Boré, c'est vrai que nous basculons avec vous dans un autre monde, monde de l'anticipation. Est-ce que vous aviez anticipé de passer si vite ?
Et alors non, justement, pas du tout. C'est la première fois que j'écris dans ce genre, je dirais, dans ce genre littéraire. Et en réalité, lorsque j'ai eu cette idée de roman... Alors, il faut peut-être expliquer les circonstances hein, dans lesquelles ça s'est oui. passé. Il se trouve, bon, j'écrivais, mais jamais je ne me serais pensée capable d'écrire un roman. J'avais l'habitude plutôt de récits brefs, de nouvelles, oui. et je me disais que c'est un travail de longue haleine que de d'écrire un roman.
Oui.
Et pour la première fois, donc, je me suis inscrite à un atelier Gallimard.
Ah.
Un atelier Gallimard qui était dirigé par un écrivain fort connu. Et
Jean-Marie Laclapetit, non ?
Non, c'était une autre personne.
Ah bon,
mais je ne sais pas s'il faut dire son nom.
Ah, bon,
en tout cas,
je
le dis très volontiers, il s'agissait de Jean-Baptiste Delamo.
Mmh.
Et au cours de cet atelier, j'ai pris conscience de la possibilité d'écrire quelque chose de long. Et ça a pris la forme assez rapidement, en effet, d'un travail d'anticipation, parce que c'est parti d'un certain nombre de questions, d'angoisses par rapport au monde dans lequel nous sommes, dans lequel nous vivons, et surtout peut-être vers lequel nous tendons.
Ouais.
Et c'est ça qui a finalement donné cette forme, à partir de laquelle j'ai échafaudé peu à peu cet univers.
Alors, c'est un vrai univers romanesque. C'est vrai, j'ai l'impression, plus, je sais pas, je connais mal la science-fiction, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de femmes en littérature d'anticipation.
Mais ah si, il y en a. Oui, il y en a. Alors, peut-être pas parmi les grands classiques. Les grands classiques, évidemment, comme on le sait, ce sont souvent les hommes qui sont mis en avant.
Oui.
Mais il y a quand même une littérature féminine peut-être méconnue, et en tout cas en pleine expansion, je dirais, aux États-Unis dans la littérature anglo-saxonne, et même en France. Je l'ai découvert après coup, parce qu'en fait, moi, ce que j'avais lu, c'était des ouvrages classique hein, aussi, hein. Évidemment, ce que tout le monde lit, Orwell, Wells, Huxley, etc. Et des plus récents aussi, mais vraiment ces grands-là.
Alors bon, c'est un monde du futur, hein,
oui.
On tombe, c'est un univers, d'abord c'est une géographie, on est dans une sorte de désert au départ.
Oui, hein, en effet.
C'est très visuel, hein, on est dans un... L'ambiance est décrite, on est vraiment dans un autre monde, et c'est un univers qui est dirigé par une dénommée Artemisia.
Oui.
Hein, voilà, je vous cite, Artemisia est arrivée progressivement à l'idée que les êtres humains aimaient par-dessus tout être persuadés de leur propre bonté, en recherchant passionnellement la fin de leurs conflits internes. Toutes leurs actions tendaient à cela, même ceux qui faisaient des actes que les autres réprouvaient, les assassins, les prédateurs, les exploiteurs, les dictateurs, les manipulateurs, surtout eux, mais la liste était longue, recherchée, l'accord intime avec eux-mêmes. C'est pourquoi, contrairement aux anciennes méthodes du XXe siècle, qui utilisaient les actions violentes contre l'injustice, comme les attentats, la guérilla, les kidnappings, et celles du premier tiers du XXIe siècle, qui utilisaient les canaux d'information pour déstabiliser les États, elle s'était spécialisée dans l'utilisation professionnelle du verbe, une arme aussi antique qu'inexploitée. Et c'est cette interrogation sur une manipulation en douceur de notre cerveau, de notre pensée, qui est très intéressante dans ce premier roman, Catherine Boré.
Oui, alors justement, alors peut-être dire un tout petit mot sur Artemisia, parce que...
Présentez-nous vos personnages aussi, voilà.
Oui, alors bon...
vous en avez trois, quatre principaux.
Voilà, il y en a quelques-uns qui sont effectivement plus saillants que les autres. Alors Artemisia, on peut s'interroger, d'ailleurs certains lecteurs m'ont posé la question de savoir si c'était une personne réelle ou une intelligence artificielle.
Ouais.
On peut se poser la question, alors j'y réponds, mais je ne dirai pas, je ne donnerai pas la réponse. Bon, je crois quand même que je donne des indications. Oui, alors, Il y a Artemisia qui représente effectivement celle qui dirige un district, puisque après cet apocalypse imaginaire, enfin c'est un roman entre guillemets post-apocalyptique comme on dit, hein, la liste est longue de ce type de roman, eh bien l'humanité est réduite vraiment drastiquement par les catastrophes qui ont pu se produire, qui sont climatiques notamment, et la Terre est donc réduite à des poignées d'hommes qui sont disséminés dans des districts. Et l'un d'eux est dirigé, le plus important, par cette entité qu'on appellera Artemisia, et qui veut absolument faire régner l'harmonie. Et par le biais d'une notion, évidemment, que nous connaissons et qui est l'égalité. L'égalité va permettre à tous, et l'égalité réelle, va permettre à tous d'atteindre cette harmonie. Cette nécessaire harmonie pour éviter la disparition totale, de l'éradication totale de l'humanité par les guerres, etc. Donc c'est ce vers quoi on tend, vers cette égalité, sauf que cette égalité, c'est évidemment quelque chose qui est toujours en mouvement, qui est difficilement atteignable, accessible, et qui va se révéler peut-être être un piège terrible pour ces survivants.
Et donc, il y a trois personnages, donc Ethan.
Alors, il y a Ethan.
Ethan, ouf.
Alors, c'est Ethan, et justement, il est nommé Ethan. Ainsi parce que l'une des initiatives qui va progressivement être prise, parce que au moment où le roman commence, il y a déjà eu une histoire, et je dirais que ce monde est en train de basculer un petit peu, il est en train de dégénérer un petit peu, et il y a eu une loi en quelque sorte qui a été admise par tous, qui consiste à finalement, pour juguler les injustices générées par les morts, la mort qui peut frapper à n'importe quel âge, on décide que il y aura un âge égal pour tous et que ce sera 65 ans. Et ensuite, oui, ça fait peur. Et ensuite, ce sera une euthanasie d'État. Qui finalement conduira tous les égaux à accepter leur sort et même à y tendre, en quelque sorte, pour le bien de tous. Et c'est Ethan qui est nommé ainsi, hein, précisément parce qu'il est exécuteur de cette mission, et qui doit conduire au désert les plus de 65 ans, enfin ceux qui auront été désignés par tout un système, et notamment un système de contrôle, pour être déporté en quelque sorte au désert.
Alors, il doit exécuter entre guillemets sa mère adoptive. Alors, parce que oui, chacun, parce qu'en plus c'est un peu le principe de Rousseau finalement, cette société. C'est-à-dire
oui, alors,
les enfants sont abandonnés et élevés par d'autres. C'est ça.
Alors, oui, il y a
le pavillon des promesses.
Voilà,
on va
c'est
les chercher.
Ça. C'est voilà. Ça, c'est ça. Justement, là aussi, c'est pour éviter qu'il y ait des dérives liées à l'eugénisme, c'est-à-dire certains qui auraient des enfants parfaits et d'autres qui auraient des enfants moins bien. Eh bien, il y aura un tirage au sort qui va être effectué. Donc, on n'aura pas son propre enfant. Les enfants seront tous rassemblés au pavillon des promesses. Et puis, les couples de parents qui veulent avoir des enfants sont tirés au sort. On leur administrera, si l'on peut dire, un enfant. On leur offrira un enfant qui sera donc adopté. Donc, c'est l'adoption qui devient peut-être la règle par tirage au sort.
Oui, c'est...
Voilà. Et donc, c'est ainsi que Veia est la mère adoptive de Tan, qui est donc le personnage dont je viens de parler. Veia, dont on va découvrir au fur et à mesure que le roman se déroule, qu'elle est, après avoir été une auxiliaire d'Artemisia, ou en tout cas recrutée comme étant une auxiliaire d'Artemisia, va devenir une opposante et faire partie de ce qu'on appelle les inégalitaires politiques.
Voilà. Alors, ce qui m'intéressait, c'est le côté aussi sur la langue. Parce qu'elle elle invente une langue, en fait.
Voilà, tout à fait.
Et là, j'ai pensé que votre spécialité universitaire avait... Il y avait tout ce que vous avez étudié est revenu. Enfin, cette interrogation sur le langage.
Oui, c'est possible. Mais c'est peut-être aussi le point de départ du roman. Parce que quand je me suis interrogée et quand la thématique de l'égalité est arrivée, c'était aussi pour s'interroger sur le décalage qu'il peut y avoir entre Oui. Le mot et la chose, oui. La difficulté qu'il y a aussi à nommer de façon adéquate ce qui se passe, et une manipulation qui peut être en effet d'ordre langagier. Alors c'est pas nouveau, évidemment, Huxley avait... Orwell, pardon, l'avait fait dans 1984, La guerre, c'est la paix, etc. Donc il y a un peu de ça, effectivement, mais je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et en fait, c'est vraiment cette notion, comment cette notion d'égalité peut-elle être pervertie? Comment est-ce qu'elle peut finalement désigner parfois son contraire? Et alors, cette idée de langage de langage total, puisque c'est finalement ce à quoi est promise cette humanité pour être parfaitement heureuse, c'est-à-dire à la transparence totale, comme si le langage pouvait être transparent, comme si on pouvait communiquer ça. Eh bien voilà, c'est ça le but finalement d'Artemisia, et par le biais de Veia, qui est chargée d'inventer ce langage total.
Donc Veia est un peu sous les ordres d'Artemisia.
Au début.
Et Artemisia, en fait, je peux le dire, elle est la mère naturelle.
Alors,
non mais oui, c'est pas grave,
on le découvre dans les toutes dernières pages.
Alors, voilà une phrase, par exemple. Ce que nous avons perdu, la note bleue, la dissonance. Oui. En fait, votre roman, Catherine Boré, c'est la description de l'enfer de la perfection.
Oui, absolument.
D'un monde...
Je suis d'accord avec ça, oui.
Une sorte de perfection collective peut aboutir à un enfer, ce qu'on appelle d'ailleurs toute dictature, c'est ça. C'est-à-dire, on part d'une... on part
totalement.
D'Auguste Comte, justement, c'est pour ça peut-être que j'ai pensé à vous réunir.
C'est ça, ce qui est fascinant, c'est d'ailleurs le caractère réversible, enfin la réversibilité de ces notions qui peuvent basculer d'un coup. Et alors, vous parliez de la note bleue, c'est une thématique qui apparaît de façon un peu clignotante, qui ne traverse pas complètement le roman, mais dont il est question. Et au fond, c'est la dissonance, justement, la note bleue. Traditionnellement, c'est ça ce qu'on appelle la note bleue, c'est la dissonance, et c'est ça que ce monde, justement, n'a pas. C'est cette chose qui nous fait humains, qui est l'altérité, le fait qu'on soit différent.
Ouais. Et puis alors, Eutane, c'est un peu, et sa mère, donc le grain de sable.
Tout à fait.
Qui va faire dérailler une machine.
Absolument.
Parfaitement élaborée, conçue. Un concept, c'est une société conceptuelle. Alors là, on rejoint votre univers, aussi d'Auguste Comte, dans un certain sens. Alors vous marquez, alors pour la langue, par exemple, comme les ultrasons, les mots nouveaux étaient aptes à traduire les ultrasensations, du moins celles qui passaient encore par le langage, au lieu des impulsions électriques par lesquelles se communiquaient les pensées. C'est vrai qu'actuellement, on parle de l'homme, le cerveau augmenté.
Oui.
Avec les implants, etc.
Avec l'intelligence artificielle. Voilà. Un transhumanisme, peut-être même un post-humanisme, c'est-à-dire notre homme.
Tout à fait. Mm. C'est ça, et c'est cette idée. Alors, il y a plusieurs éléments dans tout cela, parce que ce vers quoi tend dans le roman Artemisia, c'est justement à la transparence des consciences, l'accès, réciproque du psychisme de l'un au psychisme de l'autre, comme si c'était un garant d'égalité.
Et la langue le permet.
Et voilà.
La nouvelle langue.
Et alors, cette nouvelle langue, ce langage total qui est accessible par une puce qu'on va implanter qu'on va implanter dans le cerveau des égaux, voilà le projet d'Artemisia. Le projet d'Artemisia, c'est de faire en sorte que, justement, il n'y ait plus besoin du langage articulé, mais qu'on passe pas immédiatement.
Un cerveau de l'autre.
Voilà, absolument. Et ça, alors effectivement, cette idée, je dirais qu'elle est, dans l'air. Nous sommes tous terrifiés par cela.
L'intelligence artificielle, oui.
Oui, absolument. Alors quand j'ai commencé à écrire, c'était il y a 5 ans, donc on en parlait moins. Et ça a été, c'est progressivement que c'est devenu quelque chose dont on peut imaginer que ça soit un jour réel. Mais à l'époque, c'était pas tout à fait le cas. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était aussi cette notion de servitude volontaire, c'est-à-dire le fait que tout un chacun se sentait porté à accepter.
Cette égalité parfaite.
Voilà, c'est ça. Accepter ce qu'on lui proposait comme un gage de perfection, d'égalité, de bonheur, d'harmonie, etc.
D'ailleurs, voilà ce que vous écrivez, Catherine Bourret. Enfin, je lis des phrases comme ça, parce que ça me permet aussi de s'immerger, d'avoir une idée du livre. C'est pourquoi les hommes avaient accepté d'oublier leur passion, d'atrophier leurs émotions pour devenir des semblables dont le rôle était réglé pour la vie, comme dans une ruche ou dans une fourmilière.
Oui, absolument.
Donc c'est vraiment... Et alors aussi, en vous écoutant, c'est la disparition de quelque chose de très important, c'est la disparition du secret. Du mystère.
Tout à fait. C'est d'ailleurs une des choses, moi, qui me faisait le plus peur. C'est à différents endroits dans le roman, je me fais un peu l'écho de ce cauchemar, finalement. Cette possibilité de sonder jusqu'au très fond de notre âme. Qui nous sommes.
Est-ce qu'il y a plus c'était de la transparence, c'est la mythologie de la transparence complète.
C'est-à-dire
tout est radiographié. Même actuellement, on googlise à volonté quand on rencontre quelqu'un, on n'a plus la rencontre sans Google. Enfin, je devrais pas le citer, mais sans un moteur de recherche via Internet.
Oui, c'est ça. Donc là, c'est vraiment le cran après.
Ouais.
La possibilité est ouverte d'avoir accès au psychisme si toutefois. On peut savoir ce que c'est que le psychisme, mais voilà. Donc c'est cette sorte de d'utopie aussi. Alors peut-être dans le mauvais sens, mais en tout cas d'imagination qui fait que nous pensons ou nous craignons aussi peut-être d'être percés à jour dans toutes nos pensées, dans toutes nos désirs.
Elisabeth Laurodol, comment l'avez-vous lu? Parce que vous avez pris le temps de lire Catherine
Bourret.
Oui,
je vous en remercie.
Non, le plaisir était pour moi. Mais justement, je voudrais revenir à cette idée de... Alors, il y a la possibilité, effectivement, d'entrer dans le cerveau de l'autre, mais... Moi, je ne lis pas beaucoup de romans d'anticipation, en tout cas pas par essence. Je suis comme vous. Enfin, en tout cas, j'en suis restée à Orwell, Bradbury, à Barjavel.
Oui,
je trouve que ça m'a fait penser au départ à Ravage, sauf que la situation n'est pas du tout la même. Bon, mais ce qui m'a bluffé dans votre roman, c'est l'invention, l'imagination, c'est-à-dire que tout et cette pensée donc qui pénètre, qui interpénètre, etc. Vous lui avez trouvé une sorte d'antidote qui est la double pensée.
Oui, avec Néotera, oui. L'un des autres personnages.
À présenter vous ce personnage.
Alors Néotera, c'est une victime quand même dans l'histoire, mais c'est la sœur d'Artémisia. C'est la sœur qui règne sur un autre district, mais un district où presque plus aucun humain n'a survécu. Donc, c'est de grandes étendues, le district du Pacifique. Et Néotera craint sa sœur. Elle redoute sa sœur. Et elle a trouvé un système. Elle sait que sa sœur est capable de lire dans les pensées. Alors, elle s'en puce. C'est vraiment celle qui est, au départ... disposant de pouvoirs, des pouvoirs les plus extrêmes, c'est pourquoi on peut penser effectivement à cette intelligence plutôt qu'à un être humain. Mais en tout cas, Néotera essaie de trouver la parade. Et donc, comme il existe un double langage, eh bien, il peut exister aussi une double pensée. C'est-à-dire, deux pensées contradictoires surviennent. On s'entraîne à avoir deux pensées contradictoires, si bien que la personne en face de vous ne sait déchiffrer laquelle est la bonne.
Voilà. C'est un peu un brouillage d'ondes.
C'est un peu ça.
C'est redoutable.
Oui, tout à fait. Et est-ce que je peux simplement poser une question? Évidemment, tous les prénoms, comme vous l'avez dit, ont leur sens. Euthanasie, Néotera, je suppose, Nouvelle Terre, même Veilla. Alors, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Alors, en revanche... Pourquoi Artémisia? Artémisia, c'est pour moi Artémis, c'est la déesse de la chasse, de la nature sauvage, etc. Et donc, pourquoi ce nom d'Artémisia? Est-ce qu'il y a une raison?
Non, il n'y a pas de raison. Je suis fascinée par Artémis, c'est vrai. Et d'ailleurs, j'ai utilisé ce nom grec de la Diane chasseresse, la cruelle quand même aussi. C'est celle qui transperce quand même les animaux aussi. Eh bien, c'est aussi une déesse chaste qui est un peu en dehors de tout. Et pourtant, on sait à la fin... Bon, bref, vous l'avez dit, ce qu'il en est. Mais oui, effectivement, Artemisia, alors ça évoque aussi un monde. Je pensais que c'était ça aussi, un monde, que le monde gréco-romain.
À moitié archaïque et
oui,
futuriste.
Oui, archaïque. Enfin, c'est et c'est
nostalgie, peut-être.
Alors, c'est aussi, ce qui est certain, c'est que j'ai remarqué ensuite, parce que j'ai complété ma culture, entre guillemets, dans le domaine de l'anticipation, j'ai remarqué que beaucoup de personnages, justement, dans ces romans, portaient des noms gréco-romains. C'est très, très fréquent. Alors, je ne saurais pas, c'est vrai, je ne saurais pas vraiment vous répondre, précisément.
Mais alors, c'est peut-être aussi parce que c'est l'archéologie du futur.
Oui, c'est une très bonne réponse. Ouais.
C'est l'archéologie du futur.
J'aime bien la formule.
Oui. Et moi, autant je trouve Elisabeth Le Rodol dans une conception presque musicale. Je dirais que c'est une partition à trois voix. Et Catherine Boré, je vous trouve très visuelle. Très visuel dans vos descriptions. C'est comme des tableaux aussi. Alors, je voudrais par exemple lire un extrait de la bibliothèque. La pièce inconnue était de toute évidence une bibliothèque. Le mot existait encore, pensa-t-elle avec un coup au cœur. Une bibliothèque abandonnée. Pourtant, quand elle vit des rayonnages garnis, Veilla crut d'abord qu'ils étaient peints en trompe-l'œil, comme dans les salles où se rassemblaient chaque fin de matinée les pensionnaires pour les exercices. Une fois, peu après son arrivée au pensionnat, elle avait caressé la paroi d'une salle de réunion pour toucher ce qui l'attirait. Un vrai livre, rangé debout dans sa niche, au reflet acajou. Elle connaissait le mot livre, un mot rare comme l'objet lui-même. Voilà, c'est pour dire un peu ce qu'on ressent à vous lire. C'est très sensoriel aussi.
Oui.
Ah, et d'ailleurs, vous parlez d'une langue instantanée, multisensorielle, donc on est...
Oui, tout à fait.
Vous aviez des images dans la tête quand vous écriviez ?
Alors ça, c'est vraiment difficile de répondre à cette question. C'est plutôt des scènes. C'est plutôt des scènes qui me sont venues. Pas particulièrement des scènes en couleur ou des choses comme ça, mais c'est plutôt des scènes mettant...
séquence par séquence.
Voilà, c'est ça. Ce sont des séquences qui ont finalement déclenché aussi l'écriture. Je crois que c'est ça. Parce que la première scène, justement, elle est venue très très rapidement. Je ne l'avais pas du tout prémédité, mais c'est ça qui a lancé l'écriture. Il fallait que ça soit in medias res, comme on dit. C'est-à-dire vraiment en plein milieu de l'action, pas chronologique. Et que ça nous embarque directement dans le récit.
Puis il y a une vision un peu onirique aussi. Vous dites, c'était des images, des petits films où les gens ne cessaient de parler. Et c'est cela qui la frappa d'abord, l'incroyable propension à la parole qui transparaît dans ces films. Donc il y a comme ça des. C'est très cinéma. Il y a des juxtapositions de plans séquences, de situations. Enfin, vous avez un véritable univers romanesque. Hein. Moi, j'étais. Alors, je ne sais pas si vous allez continuer dans cette voie d'anticipation ou pas.
Alors, oui, ça, c'est une question, effectivement. Là, pour l'instant, je termine un recueil de nouvelles. Bon, alors, qui ne sont pas du tout des nouvelles d'anticipation, qui sont.
Bon.
Enfin. Le seul lien qu'il y a, c'est que ce sont des nouvelles autour de la filiation. Donc, et effectivement, c'est aussi un thème qu'on trouve dans, je pense, dans mon roman. Mais oui, alors, la question que je me suis posée, c'est est-ce que j'ai envie vraiment d'écrire un roman qui sorte de ce champ-là ? Je me sens encore...
habité.
Très, très, oui, tout à fait.
Est-ce qu'il y aura une suite
hantée.
Alors, il peut y avoir une suite, mais il peut y avoir aussi un avant. Parce que, évidemment, je n'ai pas du tout décrit ce qui
la
se
guerre.
Passe. Voilà. Ce qui se passe avant. Et ce qui fait que les humains éprouvent la nécessité de se regrouper autour d'une notion qui va devenir hypertrophiée. Et qui est hypertrophiée parce qu'elle elle n'est pas comme dans nos démocraties. Équilibrée par, la liberté et la fraternité. Là, c'est vraiment l'égalité sans le reste.
Voilà. Sans le reste,
et donc, ouais. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que, effectivement, comment on en est arrivé là? Voilà. Donc, c'est plutôt ce qui se passe avant, si je poursuis l'écriture.
Il va falloir se dépêcher parce que la science avance si vite, l'intelligence, que le monde de demain, il est déjà là, en fait.
Oui, absolument. Et c'est ce que je me disais d'ailleurs. Bon, j'ai mis un certain temps à l'écrire, mais j'ai mis surtout beaucoup de temps à publier parce que je n'arrivais pas à me décider à l'envoyer. J'allais beaucoup retravailler, etc. Et je me disais, mais il faut quand même que je le fasse parce que sinon la science va complètement dépasser tout ce que j'ai imaginé.
Un effet de l'implantation, celle qui a permis de décrypter instantanément la vie mentale. Voilà. Et c'est bon. Il y a tellement de choses à lire que je laisse les auditeurs vous découvrir, Catherine Boré. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de réflexions sur à la fois l'apparition, la disparition de certains de nos sens, c'est-à-dire voilà, le mystère en littérature, c'est très important, le secret, le mystère, le silence aussi. Là, il y a presque plus de silence finalement.
Absolument.
Dans ce monde.
C'est-à-dire, je suis partie aussi quand même de certains défauts de nos sociétés actuelles, c'est-à-dire cette hypertrophie de la parole, la parole vaine, du bruit, cette omnipotence du verbe, mais un peu désincarné. Donc, en fait, c'est un peu ça, cette sorte de bruissement général qui finalement, paradoxalement, appauvrit le langage, en fait quelque chose qui n'a plus de valeur et qui, au bout du compte, peut arriver à sa disparition au profit donc de ce langage par impulsion, par pulsion même.
Par et pulsion. Nous par sommes pulsion. Dans le monde de la pulsion.
Voilà. Et c'est ça qui génère mon angoisse aussi, un petit peu. Voilà.
Je ne sais pas si on fait une pause, toute petite microscopique pause musicale, ou si on fera une longue pause musicale à la fin de l'émission, peut-être faire, en fin d'émission, peut-être un coup de cœur musical. Alors, je vais vous poser à l'une et l'autre, parce que Catherine Boré, vraiment, vous avez, en tous les cas, ça m'a frappée, pour un premier roman, je ne sais pas ce que vous en pensez, Elisabeth, mais...
Ah, moi, comme je vous dis, j'étais bluffée, alors... J'étais très sensible à simplement, est-ce que je peux ajouter peut-être mon côté philosophe, je perds mon casque.
Oui.
C'est peut-être mon côté philosophe. Il y a des formules que j'ai trouvées absolument extraordinaires. Je peux en lire quelques-unes.
Oui, allez-y.
Abuser de son droit à vivre, pour parler de la liberté, je trouve ça merveilleux. Abuser de son droit à vivre. Autre chose, rien n'est plus fragile que les déçus d'une cause. Bon. C'est dit, c'est précis, et ça va si loin, vraiment. Donc j'étais, indépendamment de toute l'inventivité de ce roman, évidemment, qui m'a intéressée, j'étais frappée aussi par et l'écriture, et ben oui, moi, ce que j'ai dit, quoi.
Oui, voilà. Alors, je recitais encore une fois Catherine Boré. Elle reprit son vieux rêve de traduction universelle en le modifiant radicalement. Elle se demandait maintenant comment parvenir à comprendre un message entendu dans une langue inconnue sans avoir besoin d'apprendre cette langue. Je dirais presque cette formule... comprendre un message entendu dans une langue inconnue sans avoir besoin d'apprendre cette langue, c'est un peu la définition de l'écriture, peut-être.
Oui, oui, oui. Alors, avec dans...
De la poésie, en tout cas.
Oui, de la poésie, c'est ça. Avec tout ce qui est autour, le halo qui entoure
Voilà.
Ce halo de souvenirs aussi qui...
avoir l'impression et de comprendre et peut-être de ne pas avoir tout compris.
Oui.
Et qu'il reste à comprendre.
Oui, exactement. Vous aussi, Elisabeth Lorodon.
Oui, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a le lecteur derrière. Donc, l'écriteur, c'est l'écriteur ou l'écriteuse. Et puis,
vous dites écriteur, vous.
Oh, je sais pas. Moi,
il y a les écrivains, les écrivains.
Moi, je suis une vieille, donc
je disais
écrivain.
Le scripteur.
Moi, je dis scribe aussi.
Voilà,
pourquoi pas.
J'aime
le
bien
scribe,
l'écriteur.
Bien sûr.
Ah. Oui.
Alors, je vais vous poser des questions à tous deux. Vous y répondez. Alors, à quoi ressemble votre bibliothèque à l'une et l'autre, Catherine Boré, votre bibliothèque, à quoi elle ressemble?
Alors, il y a de tout quand même. Mais bon, essentiellement des classiques. Quand même, je dirais. Alors, les classiques, bon, mon grand héros, c'est Balzac, hein, quand même. C'est Balzac, ce sont les Russes aussi, tous les Russes. Et puis la poésie. J'ai un bon rayon de poésie. J'y puise régulièrement. Et notamment, d'ailleurs, ça me fait penser justement que c'était le cas pour les prisonniers ou pour ceux qui subissent vraiment des supplices c'est de recourir à la poésie et recourir à la mémoire de la poésie, recourir aux textes qu'on a appris il y a très longtemps. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important dans ma bibliothèque. Ça reste. Et puis j'essaie aussi de retenir les vers. C'est plus difficile.
La langue perdue. Et vous, Elisabeth Lorodol?
Alors,
votre
moi,
bibliothèque,
j'ai...
Vous oui, en alors... avez plusieurs
une. En tout cas, j'ai honte de dire que j'ai beaucoup de livres dans ma bibliothèque que j'ai lus et dont j'ai plus vraiment la mémoire. C'est-à-dire que quelquefois, ça peut être, c'était mon mari ou ça peut être mes petites filles, ça a lu, ça parle de quoi? Et je dis, je ne sais plus, parce que je l'ai lu il y a si longtemps, etc. Voilà, bon, espérons qu'il en reste quelque chose. Je préfère parler de ma bibliothèque d'aujourd'hui. En fait, je suis passionnée par deux sujets auxquels je comprends rien, mais ça me passionne quand même. La physique quantique, évidemment, je n'y comprends rien, mais je trouve que c'est la magie pure. Et donc, j'essaie de lire ce que je peux en me disant, je vais peut-être quand même choper quelque chose. Et puis, l'intelligence artificielle.
Ah bah alors, vous étiez faite pour vous rencontrer.
Voilà. Ah mais oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que j'étais intéressée par le livre de Catherine Boré.
Et alors, Catherine Boré, à quoi ressemble votre table d'écriture? Comment écrivez-vous? Des petits carnets? Enfin, votre proximité?
Non, pas du tout. Moi, j'écris directement sur écran.
D'accord.
Je l'ai toujours, je le fais depuis très très longtemps. Et ça ne me gêne pas du tout. Et au contraire, j'ai du mal. Alors, je le fais... Alors, par contre, pour la poésie, j'écris à la main. Mais, mais même pour les nouvelles, j'écris aussi maintenant directement sur écran. En tout cas, le roman, il a été écrit entièrement et directement sur écran.
Sur écran.
Oui, tout à fait.
Et vous, Elisabeth?
Moi, comme Catherine, c'est à l'ordinateur. Bon, évidemment, je prends des notes pendant mon petit déjeuner, etc. Aussi. Donc, j'arrive dans mon bureau avec plein de notes et je remets sur écran. Mais je trouve que l'écran, l'ordinateur était... Enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé à l'écriture.
Oui, moi aussi.
Véritablement, c'est un outil extraordinaire pour moi.
Vos admirations littéraires à l'une et l'autre, Catherine Boré?
Alors oui, donc je l'ai déjà un petit peu dit.
Ouais.
Pour les anciens, alors pour les modernes, y a Modiano quand même. Pour moi, c'est vraiment
le mystère,
le
là.
Grand, le mystère. Le mystère Modiano et le style Modiano aussi, parce que c'est un style très particulier. J'ai essayé de le percer un peu, mais je sais pas, son emploi du passé simple, du passé composé, le mélange des deux. Enfin, c'est ça aussi qui donne cette prose. Qui est évanescente, mais quand même qui reste. Alors là, vraiment, pour moi, c'est du grand art.
Ah, et vous, Elisabeth Lorodol?
Alors, quand j'étais adolescente, j'étais absolument fan de Zola et de Stendhal. Aujourd'hui, donc, je lis plus souvent, je lis très peu de romans, sauf des romans de mes amis. Par exemple, je sais, Valère Marie, que vous avez interviewé il n'y a pas très longtemps, Marie Cizin. Je trouve que le dernier livre qu'elle a écrit, bon, elle parle évidemment de son enfance, de sa vie, c'est remarquable, c'est 10 Villa Gagliardini, je crois.
Oui.
J'aime beaucoup ça, mais je lis très très peu de romans aujourd'hui, très très peu.
Bon, très peu de romans.
Non.
Votre mot préféré à l'une et à l'autre, si vous en avez un mot préféré?
Ah, quelle question.
Ça c'est bien difficile. Amitié.
Pour Catherine.
C'est important.
Ouais. C'est important dans votre vie, l'amitié.
Absolument.
Ouais. Et vous, Elisabeth?
Moi, esprit.
Ah, es-tu là?
Exactement. Voilà. Mais non, esprit, je pense effectivement que je suis arrivée à un âge où j'ai envie d'emprunter une voie, un chemin de spiritualité que je me suis toujours interdit.
Bah, il y a les forces de l'esprit, et puis c'est vrai qu'Auguste Comte,
voilà.
Vos projets à l'une et l'autre, je crois qu'on a évoqué ça avec Catherine Boré. Oui. Catherine Boré, votre projet immédiat.
Alors, dans l'immédiat, c'est d'achever ce recueil de nouvelles, donc qui est prêt quasiment.
Oui.
Et puis ensuite de le porter aux éditeurs. Donc ça, c'est la phase sans doute la plus difficile. Et puis de me remettre très très vite à l'écriture du roman.
Vous avez déjà un roman en tête, une ébauche
Oui.
Ce serait
la suite. Après avoir beaucoup hésité, après avoir esquissé des pistes différentes, je pense que je vais revenir au roman d'anticipation et à cette source-là qui pour moi... Alors, je serais un petit peu d'accord avec ce que vous dites. C'est difficile, je trouve, de lire des romans contemporains, à part certains, qui sont remarquables par la qualité de l'écriture. Essentiellement, moi, j'y suis très sensible. Mais je trouve qu'il y a, dans les romans d'anticipation, quelque chose de vraiment... Moi, qui m'attire, mais vraiment de façon extraordinaire, j'en avais pas lu assez, et maintenant, voilà, c'est devenu quelque chose qui m'attire beaucoup, y compris des romans anciens d'ailleurs, notamment dans la littérature russe, je pense à Zamiatine, qu'on a récemment découvert, mais voilà, et donc ça, ce sont vraiment des choses qui m'attire là.
Est-ce que aussi c'est la partie chercheuse de l'écriture qui vous attire?
Oui, c'est ça, tout à fait. Cette dimension, parce que je ne sais pas ce que je vais écrire. Je sais ce vers quoi je tends, mais je ne sais pas ce que je vais écrire. Je n'ai pas la solution. Et c'est d'écrire qui me fait trouver des solutions, qui me fait trouver des idées. C'est la dynamique de l'écriture qui fait ça. C'est pas j'ai pas un message puis ensuite que j'écris, c'est l'inverse.
C'est le médium de l'écriture, voilà, c'est vrai qu'on le ressent puisqu'on est appelé par votre écriture qui est assez très forte. Et vous, Elisabeth Lerodol?
Alors moi, comme vous savez, tout ce que j'écris, c'était vraiment à la fois de la transmission. Enfin, je m'étais interdit, je ne sais pas pourquoi, d'écrire sur moi. Et il se trouve que les événements de la vie ont fait que j'ai créé quelque chose de beaucoup plus intime. Je ne sais pas si ce sera publié, donc ça c'est une chose.
Oui.
Voilà.
Oui.
Et puis j'ai envie effectivement d'emprunter non pas un chemin de religiosité, mais de spiritualité, de me poser des questions, c'est-à-dire de pousser des portes que je n'ai pas poussées avant. Je ne sais pas si la vie m'en laissera le temps, si j'en serai capable, mais enfin bon, je peux toujours quoi. L'ordinateur est là.
Est-ce que le livre, l'écriture du livre, vous change l'une et l'autre, Catherine Boré?
Ah oui.
Est-ce que vous avez eu un avant et un après?
Ah oui, tout à fait. Pour moi, oui. Je crois que si je n'avais pas écrit au moins un roman, parce que je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais au moins un roman, j'aurais manqué quelque chose dans ma vie. Oui, ça m'a beaucoup, beaucoup apporté.
Vous allez en écrire d'autres, c'est sûr.
Oh, je ne sais pas.
J'espère, c'est sûr. Et vous, Elisabeth Lerodol? Est-ce que le fait d'écrire un livre à chaque fois, et vous en avez écrit un certain nombre,
oui.
Est-ce qu'à chaque fois, c'est une nouvelle naissance pour vous? Est-ce que vous vous sentez modifié par l'écriture d'un livre? Est-ce que vous mutez de livre en livre?
Oh non. Non, mais j'ai l'impression que j'écris parce que je sais faire ça. Aligner les mots, faire des phrases, polir les phrases, etc. Bon, voilà. Donc, les sujets, ça vient, bon, ça mûrit. Alors, je ne sais pas exactement quand on écrit un roman d'anticipation. J'en ai un dans mes tiroirs, mais il remonte à 40 ou 50 ans. Je suis peut-être de sortir maintenant que je suis venue ici, on ne sait jamais, voilà. C'était un peu philosophique. Et je ne sais pas comment, quelle préparation il y a avant. Disons que moi, tous mes livres, ça supposait effectivement de la recherche, voilà. Donc, une documentation extrêmement précise à partir de quoi, bon, je prenais un biais
c'est le côté
fictif.
Zola.
Voilà.
Tout à fait.
Ouais, voilà. Est-ce que vous pensez l'une et l'autre à votre lecteur quand vous écrivez? Catherine.
Oui. Et même à un moment donné, alors je crois qu'à un moment, il ne faut plus y penser parce que c'était paralysant à un certain moment, surtout au début. Et puis ensuite, non. Après, quand je suis lancée dans l'écriture, non, j'oublie, j'essaye de que ça soit pour moi quelque chose de cohérent, qui fasse un tout. Même s'il y a des choses qui m'échappent certainement. Mais c'est vraiment ça, que ça soit fait le plus. correctement possible, que l'intrigue soit faite, soit la mieux possible.
Et vous, Elisabeth?
Ah oui, moi j'écris avec l'idée que quelqu'un va me lire, même si c'est une seule personne. C'est extrêmement important. Je ne peux pas imaginer l'écriture comme une sorte de désert intellectuel. On écrit pour soi, non. Non.
Bah, merci à toutes les deux, en tous les cas, pour
merci
ce beau
vous.
Moment littéraire. Merci. Alors, je rappelle à nos auditeurs qui veulent vous découvrir et l'une et l'autre. La Mijaurée d'Auguste C, c'est un roman d'Elisabeth Laureau-Doll. Ça vient de paraître aux éditions Diabaz. Hein, peut-être que les auditeurs pourront aller au marché de la poésie, vous trouver, puisque je pense que votre éditeur doit avoir un stand au marché de la poésie.
Je ne suis pas sûre.
Ah bon, d'accord. Mais enfin, Diabaz, voilà, la collection littérature. Elisabeth,
on peut le demander
et on peut aussi découvrir d'autres livres, comme par exemple Gutenberg, le rêveur de livres.
Oui, je ne sais pas si c'était au Seuil, ça.
Au Seuil Jeunesse.
Seuil Jeunesse. Je ne sais pas si ça existe encore, mais enfin, on doit le trouver.
Sait-on jamais.
Sur Amazon.
Et il y avait aussi, je n'ai pas vu, là, un livre collectif, Le sel de la Bretagne.
C'est ça. Hein? Oui, alors ça, ce sont des Bretons qui ont écrit chacun leur lien à la Bretagne. Et j'étais la seule qui n'était pas bretonne. Et donc, j'ai essayé de savoir ce que c'était qu'être breton. Voilà.
Ah. Et vous, Catherine Boré, voilà, on peut vous lire Un monde d'ego, premier roman aux éditions Il est midi, premier roman.
On peut commander en librairie.
Qu'on peut commander en librairie parce qu'il faut être présent chez les libraires. Hein. Il faut être présent. On peut vous commander l'édition Il est midi, Catherine Boré, Un monde d'ego. Premier roman particulièrement réussi. Avec, je l'espère, d'autres aventures. Merci à Flo Descailloux de nous avoir accompagnés avec des musiques de son choix. Et merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés. Et je vous dis à la fois prochaine. C'était l'émission Bibliomanie que vous pouvez télécharger sur le site de Radio Libertaire et podcaster, comme on dit. À très bientôt, à la fois prochaine.
Alors on peut partout sauf sur Amazon prendre la musique ou les livres, et là vous écoutez Les Catacombes de Pompéi de Florence Collin. Ça a été composé en 1997. We'll be right back.
L'émotion contre les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, comme la compétition sportive en général, sont un des outils de manipulation et de propagande des dominants. Ils reproduisent les mécanismes en jeu au cœur même du capitalisme, dans sa dimension faussement festive et par bien des aspects, renforçant ainsi les formes les plus inacceptables de la domination. Ce sont le pain et jeu qui participent à l'inertie des peuples. Les dénonciations de viols, d'agressions sexuelles, d'homophobie, de transphobie dans le milieu du sport professionnel et amateur sont de plus en plus nombreuses, révélant des comportements inacceptables. La glorification du succès, la mise en avant de la performance et de la compétition comme modèle à suivre dans une société capitaliste et productrice des hiérarchies sociales. Les actes racistes, cris de singe, slogans sur les banderoles à caractère raciste surgissent dans les tribunes d'événements sportifs. Les rixes entre supporters, sentant le nationalisme, le régionalisme, ces pratiques honteuses ne cessent pas. Ces jeux, que l'on nous présente comme étant pacificateurs, sont utilisés à des fins politiques et nationalistes. Et pour mémoire, les Jeux de Berlin en 1936, au cours desquels a été inventé le parcours de la flamme, Jeux de Moscou 1980, Jeux d'hiver de Sochi 2014, la même année de l'annexion de la Crimée. Si ces jeux n'étaient pas placés sous le signe du nationalisme, l'on n'entendrait pas les hymnes nationaux en cas de victoire. Comme tous les Jeux olympiques, ceux de 2024 à Paris sont placés sous l'enseigne de l'argent roi, à différents égards. Rémunération exorbitante et primes en cas de victoire, publicité et sponsoring de tout genre et ne bénéficient pas au sport. De très grosses sommes d'argent pour bétonner et construire des équipements qui, nous dit-on, sera ensuite à la disposition de toutes et tous. Les morts sur les chantiers de construction par souci d'aller vite au détriment des normes de sécurité, l'augmentation du prix des transports en commun au détriment des populations pauvres, l'utilisation de bénévoles pour baisser les coûts des Jeux. La relégation des Jeux paralympiques à une date ultérieure des Jeux olympiques, mettant l'handisport au banc, caché et moins médiatisé, comme si les athlètes valaient moins que les autres. Au-delà des Jeux para-olympiques à une date ultérieure des Jeux olympiques, ceux-ci sont un alibi pour une société qui exclut les personnes handicapées au quotidien, en particulier dans les transports. Jeux olympiques placés aussi sous le signe du nettoyage, y compris social, de Paris. Des populations jugées comme indésirables, notamment les sans-abri. Des locataires obligés de céder leur logement pour loger le personnel nécessaire à la tenue des Jeux.